bien, chers amis, le message de cet après-midi sera encore un témoignage à la gloire de Dieu, que Dieu nous conduise et nous dirige. Et j'aimerais lire un court passage de la Bible, mais très important passage, qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, au verset 3. Jean 1, 5, 3. Il est dit là, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Quand on parle de la foi, il est question de la foi protestante, de la foi catholique. Devant Dieu, il n'y a ni foi protestante ni foi catholique. La foi qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi qui nous sauve du péché. La foi est un don de Dieu. Ce n'est pas une tradition ni une religion, la foi. C'est un don de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, qui ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La question de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On en voit une image dans le voyage de l'enfant prodigue qui retourne à la maison. Cet enfant prodigue était parti de la maison pour jouir de ses biens, jouir de sa jeunesse, vivre dans le péché, et il est tombé très bas dans le péché, tout au bas de l'échelle. Cet enfant prodigue. Et dans sa misère, étant ruiné complètement, intérieurement, extérieurement, il a regardé à Dieu, il a cherché son salut. Puis il a dit ceci, « Je me lèverai. » Est-ce que c'est la conversion? Non, c'est la décision. La décision n'est encore pas la conversion. « Je me lèverai, c'est le futur, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Traite-moi comme un de tes mercenaires. » Donc, c'est la décision. Puis après, il est dit, « Il se leva. » Ça, c'est la conversion. C'est-à-dire la conversion qu'on abandonne le péché, qu'on tourne le dos à ce qu'on avait adoré auparavant. Ça, c'est la conversion. Mais ce n'est encore pas la nouvelle naissance. Cet enfant prodigue s'en retourne à la maison et doit se penser, se dire en lui-même, comment que mon Père va me recevoir? Il n'a pas d'assurance du pardon des péchés. Il est converti, mais n'a pas d'assurance. Et c'est seulement quand il est arrivé à la maison paternelle qu'il a reçu le pardon de son Père, qu'il a confessé ses péchés, sa misère à son Père, qu'il reçoit le témoignage qu'il est un enfant de la maison. Et à ce moment-là seulement, eh bien, il peut se réjouir, il est un enfant de Dieu, il est passé par la nouvelle naissance. Combien de personnes dans votre cité d'Anzin sont-ils nés de nouveau? Dieu seul le sait. Mais je me pense un petit peu en moi-même qu'il y en a à peu près autant que dans ma petite patrie où j'habite en Suisse, qui s'appelle Belp, un pays qui s'appelle Belp. Une fois, j'ai fait un essai. Je voyage beaucoup et dans le train, j'ai posé 100 fois cette demande à des gens de rencontre, des gens inconnus dans le train. Cette question, êtes-vous né de nouveau? En français, en allemand, en italien, pendant 3 mois de temps. 100 fois cette demande, êtes-vous né de nouveau? Il y a des gens qui m'ont répondu, ah mais monsieur, moi je suis protestant. Ah oui, moi aussi. On est protestant. Oui. D'autres m'ont dit, ah mais moi je suis catholique. Eh bien moi j'étais catholique dans le temps, mais ça ne suffit pas d'être catholique ou protestant. Il est question d'une nouvelle naissance dans la Bible. Quelqu'un m'a dit, ah mais moi j'étais baptisé. Ah mais moi aussi, quand j'étais petit on m'a baptisé. On peut me baptiser 1000 fois sans changer rien du tout. Ah mais moi j'ai fait ma première communion, monsieur, qu'on m'a dit dans le train. Mais on peut la faire 100 000 fois, ça ne change rien du tout la première communion. Une demoiselle m'a dit, tout à fait énervée, et même presque en colère. Vous savez, monsieur, moi, je joue de l'harmonium à la chapelle. Moi, je n'ai jamais vu parler de l'harmonium dans la Bible. Il a parlé à de nouvelles naissances. Une seule personne sur 100 demandes, en Suisse protestante, une seule m'a dit oui. Parce qu'en Dieu, une seule chose compte, c'est oui ou non. Oui, il n'y a pas de j'espère ou bien, enfin, communion, tout ce qu'on voudra. Oui ou non. Une seule sur 100, ça fait 1%. Combien de pourcentage en zin? Dieu seul le sait. Dieu connaît les cœurs. Mais c'est tellement beau quand on est passé de la mort à la vie, comme l'a dit notre frère Gilgen. Et je l'ai réalisé, donc cela il y a 43 ans. Et ma vie fut merveilleuse avec Christ. Une vie ne peut être merveilleuse qu'avec Jésus-Christ. On parle beaucoup de merveilleux aujourd'hui. Ensuite, on dit, aller en ski, c'est merveilleux. Aller au cinéma, c'est merveilleux. Ceci, c'est danser, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une chose de merveilleuse, c'est la vie de communion avec Dieu. Je le dis par expérience. Une vie avec Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes appelés tels que nous sommes à porter notre témoignage. Et Dieu bénit les siens. C'est pourquoi il est bon de venir à lui, de ne pas rester un chrétien comme ça refroidi, qui repousse. Il y avait une fois une place, un prédicateur de l'évangile, un prédicateur qui n'était même pas converti. C'est drôle ça, hein? Quels les prédicateurs qui ne sont pas convertis? Il y en a. Je connais passablement en Suisse de ces gens-là. Oui. Et puis dans ce village où il habitait, il y avait un petit garçon qui portait, un jeune garçon qui portait la viande chez le boucher, il s'appelait Jules. Et puis le prédicateur, il avait une servante qui s'appelait Mélanie. Et puis là, Jules, tous les matins, il allait porter sa viande, sa commande chez le prédicateur. Et puis il disait comme ça, voici la viande, adieu. Puis un jour, alors Mélanie c'est vraiment plainte au prédicateur, puis elle dit, monsieur le prédicateur, tout de même, vous rendez-vous compte, il y a ce Jules qui vient, il est tellement mal élevé. Il dit comme ça, voici la viande, adieu, même pas bonjour. Puis le prédicateur lui a dit, Jules, attends Mélanie, la prochaine fois qu'il reviendra demain, c'est moi qui vais le recevoir. Alors le lendemain matin, c'est donc Mélanie qui était en haut dans la chambre, et puis le pasteur qui attendait, mon Jules, le prédicateur à la porte. Jules arriva, puis il dit, voici la viande, adieu. Puis le prédicateur lui a dit, Jules, attends. Je dois te dire quelque chose. Puis il lui a dit maintenant, Jules, je vais te montrer comment on doit faire quand qu'on porte la viande, les commandes. Maintenant, tu es le prédicateur, puis moi je suis Jules. Puis Jules s'est installé sur le seuil de la porte, c'était le prédicateur. Puis le prédicateur est parti, c'était Jules, vers cette remorque, puis il a pris cette viande, puis il est venu vers Jules, qui était le prédicateur. Puis il a dit, bonjour, monsieur le prédicateur, voici votre viande, c'est un beau morceau. Quel beau temps, n'est-ce pas, monsieur le prédicateur? A dit à Jules, oh, waouh, monsieur le prédicateur. Il a voulu donner une bonne leçon à ce Jules, ce prédicateur. Puis il a descendu l'escalier, le prédicateur, pour montrer qu'il finissait son rôle vers la remorque. Puis Jules, qui était à la porte, lui dit, attendez, Jules, attendez, s'il vous plaît. Puis il a crié comme ça, Mélanie, apportez 20 centimes de pourboire. Mais oui, toute l'année, ce pauvre Jules apportait de la viande, mais il n'était jamais venu faire l'idée à ce prédicateur de lui donner une petite pomme ou bien 20 centimes de pourboire. C'est seulement Jules. Jules. Oh oui, voyez-vous, il y a combien de bénédictions qui s'en vont se perdre dans le Rhin ou bien dans le Rhône, je ne sais pas où. Enfin, ça va se perdre, des bénédictions qui pourraient porter du fruit. Parce qu'il y a les acceptions de personnes. Attention aux acceptions de personnes. Oh oui, il y avait là-bas en Calabre une famille qui s'appelait Costa. Costa, la famille Costa. Enrique Costa, des gens tellement pauvres. Dégoûtés de la religion à l'extrême. Et cette famille Costa a dû s'exiler en Amérique, plus de travail. Ils sont partis là-bas en Amérique. Et là-bas, ils ont trouvé du travail en Amérique. Mais ils ont trouvé encore mieux, ils ont trouvé le Seigneur. Il est aussi en Amérique, heureusement. Puis ils se sont tous convertis, la famille Costa. Tous les enfants, 8 enfants, toute la famille. Quelle joie! Et dans sa joie d'être sauvé, Enrico Costa, que je connais bien, il a dit, je ne peux plus tenir, il faut que j'aille apporter ce message en Calabre, en Sicile, là-bas. Je vais y aller. Et puis s'adresser à une société de mission à New York. Il s'est présenté. Il n'avait pas de sous pour le voyage. Puis il s'est dit, peut-être qu'ils pourront m'aider, ces gens-là. Et puis, ils lui ont dit, où avez-vous étudié? Ils avaient à peine lire, écrire. Puis après, ils ont dit, quel âge avez-vous? Eh bien, 28 ans. Ils ont dit, c'est trop vieux. Chez nous, on les prend jusqu'à 25 ans. Après, c'est trop tard. Vous connaissez l'âge des missionnaires, vous, dans la Bible? Vous avez déjà vu ça? L'âge des missionnaires, il n'y en a pas du tout. Et alors, Jules, il est parti constat un peu découragé, puis il a dit, ben j'y vais tout seul. Et ses enfants lui ont donné leur tirelire pour payer un billet sur le bateau, pas un des beaux bateaux de luxe, bien sûr. Et puis Constat a même travaillé sur le bateau, a chauffé le bateau. Et puis Madame Constat, notre sœur que je connais bien aussi, elle a été faire des ménages pour nourrir les enfants à New York. Et Constat arriva en Calabre en 31, annonça l'évangile dans son pays. Il était tellement pauvre qu'il a dû aller faire les pieds nus évangéliser. Mais Dieu était avec lui. Et par Constat son nez, j'appelle nez, dans Sicile en Calabre, 162 églises évangéliques. 162 églises évangéliques. Pendant 3 ans de temps. Au bout de 3 ans, il avait l'ennui de sa famille. Moi, j'aurais eu l'ennui avant lui, moi, je ne suis pas bien. Puis il s'est dit, ben, je vais en Amérique, je vais retourner à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait de ses églises? Qu'a-t-il fait de ses églises? Il n'a pas dit, mes églises, mes convertis, costa costiste, non. C'était les convertis du Seigneur. Il a donné ses églises à l'Alliance évangélique d'Italie, puis il a dit, frère, continuez. Mon ministère est terminé ici, je pars en Amérique. Voilà de l'humilité. Il a tout donné aux frères pour continuer. Puis il est parti en Amérique et Dieu l'a béni par un message, et par un témoignage, et par un réveil à New York. Costa. Un petit Costa de rien du tout. Quelque temps auparavant, étaient partis en Calabre 3 pasteurs vaudois du Piémont. Ils ont resté 15 jours. Il paraît que c'était trop dur. Ils n'ont pas eu un seul fruit. Dieu était avec cet homme. Et c'était un homme joyeux, un homme heureux. Encore de nos jours, c'est un vieillard maintenant. Mais Dieu l'a béni. La joie du Seigneur. Non pas seulement d'être sauvé, d'être racheté, d'avoir nos péchés enlevés. Mais quelle joie déjà quand on sait, mes péchés sont pardonnés. Et mon nom est écrit dans le livre de vie, cette assurance. Le péché rend l'homme malheureux. Les tiens aussi de péché, de rendre malheureuse. C'est le moment de t'en débarrasser. Et il y a un bon endroit pour les laisser ces péchés, heureusement. Il y avait un empereur romain, là, dans les temps passés à Rome. Oui, un empereur romain. Il avait organisé un grand festin pour une victoire. Tite. Titus. Un empereur. Et devant tous les convives, là, à la fin du festin, on lui a offert une pomme. Parce qu'à cette époque-là, les pommes étaient un fruit très rare à Rome. Une belle pomme. Et Titus a coupé cette pomme en deux. C'est une belle pomme, extérieurement. Des belles couleurs. À l'intérieur, il y avait un verre. Il a pris ces deux morceaux de pomme, il a regardé les convives, puis leur a dit, voilà l'image de ma vie. C'est peut-être aussi l'image de ta vie, cette pomme. En tout cas, c'était l'image de ma vie un jour. Et Dieu a enlevé cet abcès misérable de péché de mon cœur. Et j'ai pu réaliser ce pardon. C'était il y a tant d'années. Et Dieu a béni. C'est tellement beau, la joie du Seigneur, la joie de savoir sauveur, gardien, bon berger, conducteur, on a ça dans la vie. Quel trésor. On est bien gardé. L'apôtre Paul qui a écrit ces paroles, l'Éternel est mon berger, eh bien, puis qui a donc réalisé, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, eh bien, il n'avait pas l'assurance. Il était même malade, il avait une écharpe dans la chair. Et puis, il a quand même toujours dit ces choses, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul, quel exemple pour nous. Une fois, on était là-bas en Calabre, et là est née une nouvelle église évangélique, au bord de la mer. On n'est pas de local que l'on se réunissait sous les oliviers le dimanche, ou bien au bord de la mer. C'était notre local. Puis alors, c'est très bien par beau temps d'être sous les oliviers, de parler de Jésus. Mais vous savez, quand on prend la Sainte Seine au bord de la mer, puis qu'on reçoit sur la tête une nuée de cailloux, c'est pas très agréable pendant la Sainte Seine d'être bombardé de cailloux. C'est pour ça qu'on a décidé de construire un local. Puis on s'est mis à construire un local. Moi, avec la trouelle, le marteau, c'est mon métier aussi. Et tous les frères et sœurs sont venus aider. Oh, c'était merveilleux. Deux vieux frères et sœurs, déjà âgés, qui s'étaient convertis, ils ont donné leur âne pour cette chapelle. Ils n'avaient qu'un âne. Puis un jour, j'étais là-bas à Calabre, il y a deux personnes dessus qui sont venues me voir. Puis il y a ces deux vieux qui ont passé là, qui avaient donné l'âne pour la chapelle. Ils sont partis en tirant une charrette très lourde. Puis ces deux Suisses m'ont dit, regarde-moi ça, ils ne sont même pas organisés. Ils tirent une charrette. Ça ne se voit plus de nos jours. Il faudrait moins un âne. Puis je leur ai dit à ces deux Suisses, ils avaient un âne, ils l'ont donné, l'ont vendu pour payer la chapelle, ces deux-là. Mmh. Oui. Et c'était la joie, on a commencé à bosser. On est arrivé à environ 80 cm de haut. Quand arriva tout à coup, un soir, un matin de bonne heure, une équipe noire, tout à fait noire. C'est le prêtre et quelques types de son église qui venaient. Puis ils m'ont dit comme ça, « Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous ?» Puis ils m'ont dit comme ça, « On va vous faire expulser, vous êtes étranger. Maudit protestant, maudit protestant, » qui m'ont dit. Je lui dis, « Monsieur le prêtre, votre langage ne me plaît pas beaucoup. En tout cas, chez nous, eh bien, c'est pas la même chose. Nous, on ne dit pas maudits catholiques, on les aime les catholiques. Et puis, voyez-vous, premièrement, vous ne pouvez pas m'excuser, je suis italien, je ne suis pas étranger. Deuxièmement, on vous aime tellement qu'on fait une chapelle pour pouvoir mieux prier pour vous. » Il était tout ahuri, puis il est parti à la briqueterie. Il a ordonné de ne plus nous livrer une seule brique. On n'a plus reçu une seule brique, chers amis. Et tous les matins, on était là devant le chantier, notre équipe d'enfants de Dieu, puis passait en procession. 500-600 personnes, en criant « maudit protestant », le prêtre en tête. Puis nous, on les aimait bien, ces pauvres gens. Ils n'en peuvent rien, ils ont déconduit comme ça. Finalement, évidemment, les camarades, les gens pleuraient, nos gens pleuraient, ils étaient déprimés, puis j'ai dit, il faut se réjouir, mais c'est beau, moi j'aime bien ça, moi. J'aime bien ces combats-là, c'est droit ce qu'il nous faut. Des épreuves, la joie, toujours dans le Seigneur. Mais en même temps, ça me faisait quand même poum, 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 je me disais, comment que ça va durer. Alors j'écris à mon père à Paris depuis la Calabre, puis mon père est entrepreneur de construction. Et mon père m'a fait venir, il m'a envoyé de l'argent par télégraphe. Ça fait loin, ça fait 3000 km de la Calabre à Paris. Et là, mon père m'a donné une machine pour faire les parpaings. Puis je suis parti avec ma machine pour faire les parpaings ventre à terre contre la Calabre depuis Paris. Puis on a fait nos parpaings, bon, ta mère, avec grand enthousiasme, en chantant des cantiques, toute l'équipe. Une belle machine, vous savez. Alors j'arrivais à toute l'équipe noire de nouveau. Une douzaine de bonhommes. Le prêtre rentrait, puis il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette machine? Dit, monsieur le prêtre, une belle machine. Oh, qui a perdu? Ouvrez bien vos yeux. Il y a deux grands parpaings qui sont sortis de la machine, ils regardaient toute l'équipe comme ça. Puis j'ai dit, monsieur le prêtre, c'est pas des belles briques, ça? Et vous savez, ce sont des briques protestantes. Ils sont meilleurs que les catholiques. Puis nos briques protestantes, ben, écoute, 50% meilleur marché que les catholiques. C'est grâce à vous, merci beaucoup. Puis il s'est tellement mis en colère, ce prêtre, il est parti à la fabrique de ciment en demandant qu'on nous livre plus de ciment. Vous voyez, le diable se démène. Mais le Seigneur est tellement bien, tout dit qu'il est merveilleux. Il m'est conduit le jour auparavant à la fabrique de ciment et j'ai fait une commande de 2000 sacs de ciment. J'en ai payé la moitié, content, qu'on allait au mois d'avance. Il arrive un peu trop tard, le prêtre, c'est aussi trop tard, un petit peu trop tard. Mais une minute, c'est trop tard. On avait un contrat en main. Et la salle a été construite, et maintenant déjà, elle est trop petite. Trop petite cette salle, qu'on croyait déjà trop grande. Elle est trop petite. Dieu a béni. Oh, c'est tellement beau dans ces pays-là d'évangéliser, de voir la joie de ces gens qui ont passé par la misère, et de savoir, eh bien, le Seigneur, il aime ses enfants, il les conduira jusqu'à la fin. Et ceux qui se confient en lui, ne sont point confus, ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Et c'est là notre sort à nous, les enfants de Dieu. Voyez-vous, il y a tellement de gens de nos jours qu'il faudrait exhorter, toujours plus. Tout dit qu'il est merveilleux. Vous êtes un enfant de Dieu, vous le dites, mais on ne le voit pas. On serait tenté de poser cette question. Mon cher frère, où est ta joie? Ma chère sœur, où est ta joie? Moi, j'ai connu une dame qui était tellement pieuse. Elle était surpieuse. C'est pas nécessaire, surpieux. Dieu n'a jamais dit d'être surpieux. Elle était tellement brave. Elle disait convertie. Puis elle avait un magasin d'épicerie, puis elle vendait aussi des légumes et des fruits. Et quand elle vendait des prunes, quand pour que ça fasse juste le poids, elle coupait une prune en deux. C'est pourquoi on l'appelait Madame Demi-Prune. Mais alors on ne voyait pas de la joie du Seigneur sur ce visage, mais rien du tout. qu'elle s'imaginait qu'elle est le Saint-Esprit encore. Alors voilà qu'un jour, ce qui s'est passé, cette madame de Mitrune, c'est un dimanche, il y a son petit neveu qui s'appelait Robert, que je connaissais bien, il est venu dans la cour là, de sa tante là, puis il commence à chanter un cantique de cette cour. À tue-tête, ce petit Robert qui avait 9 ou 10 ans. Et là, madame de Mitrune, la tête a dit, « Robert, chut, chut, c'est dimanche, vous êtes sage. » Robert l'a pensé, on ne peut plus chanter le dimanche maintenant. Il s'est mis à siffler. Madame de Mitrune, chut. Robert, c'est dimanche, il ne faut pas siffler. Chut. Le jour du Seigneur. Puis Robert est parti, puis il a vu un coq dans la cour voisine. Puis ce coq qui chante à tue-tête, puis Robert lui a dit, chut. C'est dimanche, ma tante a dit. Mais le coq ne voulait pas obéir. Puis il est parti vers un étang à côté, puis alors il y a des petits poissons qui fait des dimanches à leur façon. Puis il a des poissons, pfft, c'est dimanche, vous êtes sage comme une image, mais les poissons ne voulaient pas écouter. Puis il arrivait finalement dans l'écurie, puis là il y avait l'âne. Puis l'âne était sage comme une image. Et puis Robert a pris cet âne par le cou. Puis elle dit, mon cher âne, comme tu es brave, je t'aime bien, tu as la même religion que ma tante. C'est, voyez-vous, ces chrétiens où ils ne reflètent pas de joie, c'est tellement triste, c'est tellement déprimant. Qu'on soit des gens qui puissent dire, oui, tout dit qu'il est merveilleux, mais qu'on le voit dans notre vie. Une fois que je rentrais d'une ville de Suisse qui s'appelle Lausanne, chez moi à Berne, dans le train, je lisais la Bible. Quand on lit la Bible dans le train, ça donne beaucoup de place en Suisse. On s'installe, et quand les gens rentrent dans le compartiment, ou s'efforce de rentrer, et voient ce livre noir, ils partent ventre à terre. Quand on lit l'illustré, ils viennent s'asseoir à côté de vous, puis ils regardent par-dessus l'épaule. Mais la Bible, alors, c'est un épouvantail. Mais c'est pratique. Alors, je lisais la Bible, et là, à mi-chemin, à Fribourg, une ville de Suisse, entra un personnage, et prit place en face de moi, dans ce compartiment de chemin de fer, première classe. Et ce monsieur sortit de sa serviette, son drapeau noir, c'est la Bible, le drapeau noir, et lui la Bible en face de moi. Alors je lui dis, on est tous les deux pareils. Hein. Et c'était, vous savez pas qui, un des directeurs de la maison, je ne sais pas si c'est connu en France, la maison Knorr, les produits Knorr. On fait de la bonne sous-soupe avec eux. Les produits Knorr, c'est pratique, surtout quand on est pressé les dames pour midi. Oui, les produits Knorr. Et c'est un directeur de cette maison-là. Alors on a parlé de la mission, on a parlé d'évangélisation, et aussi des camps d'enfants. Et depuis cette époque-là, cette maison m'a envoyé toutes les années environ 700 kilos de produits Knorr pour les camps d'enfants d'Italie, gratuitement. Savez-vous que la maison Knorr envoie aux missions chaque année environ 4000 kilos de produits Knorr? Oui, c'est une grâce de Dieu, une maison chrétienne. Cette maison Knorr, eh bien, elle a son cœur d'homme chrétien, sa fanfare chrétienne et son assemblée chrétienne dans la fabrique. Une bénédiction de Dieu. On serait tenté de poser la question, chez nous comme chez vous, où sont les personnes qui de nos jours encore lisent la Bible? Je crois qu'elles sont clairsemées dans le Nord comme chez nous en Suisse. On a de la religion, on est catholique ou bien non protestant, les gens sont catholiques, ils n'en peuvent rien. Les autres sont protestants, ils n'en peuvent rien non plus. Ils sont nés comme ça, mais n'ont aucun besoin pour lire la Bible. La parole de Dieu nous annonce qu'il y a deux chemins dans ce monde, le chemin large et le chemin étroit. Et toi et moi, ce matin, nous sommes tous les deux, ou bien sur le chemin large, ou bien sur le chemin étroit. Et chacun de nous sait très bien où se trouve. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour rien. Il y a un Saint-Esprit pour quelque chose, et même il y a une conscience qui a été donnée par Dieu. Et chacun sait très bien où il se trouve. Mais les personnes qui se trouvent sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle lisent la Bible. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une nourriture, la parole de Dieu. Chez nous en Suisse, il y a très peu de gens qui lisent la Bible encore de nos jours. Il faut de l'humilité pour lire la Bible de nos jours. Il faut beaucoup d'humilité. En Italie, au cours de semaines d'évangélisation, un grand professeur s'approcha d'un évangéliste et lui dit, vous croyez la Bible? Oui, monsieur le professeur. Toute la Bible, toute la Bible. Toutes. Mais je lui ai dit, professeur, mais monsieur, vous comprenez, l'affaire de la mer Rouge, par exemple, cette affaire de la mer Rouge avec le pharaon, vous croyez ces choses-là? Eh oui, monsieur le professeur, comme un enfant. Parce que pour être heureux dans ce monde, il faut devenir des petits-enfants. Oh, que Dieu accorde cette grâce que nous restions des petits-enfants, confiants, sans douter de la parole de Dieu. Là, on est heureux. Et le professeur lui a dit, mais vous comprenez, monsieur, à cette époque-là, dans la mer Rouge, il n'y avait seulement que 10 cm d'eau. Et notre chrétien de lui répondre, mais monsieur le professeur, dans ce cas-là, il y a encore eu un plus grand miracle. Imaginez-vous qu'une armée de pharaons perd la vie, s'enfonce dans 10 cm d'eau, une armée toute entière. Oh, que Dieu nous accorde l'humilité de croire la parole de Dieu, et la parole de Dieu s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Dieu a le dernier mot, non pas les Russes, les Américains et qui que ce soit, c'est Dieu. Nous avons un beau chant dans l'église vaudoise en Suisse. Dans ce cantique, il est dit, « Chrétien, réjouis-toi. » Non pas seulement qu'il est notre sauveur, premièrement cela. Il est notre sauveur, mais davantage. Il est rédempteur. Et il règne. La terre est à moi et tout ce qu'elle contient, dit l'Éternel. Et de ce grand Dieu, nous sommes devenus par grâce les enfants. Pas seulement, il n'est pas un Dieu très éloigné, il est notre Père céleste. On peut bien dire avec raison, que peut faire l'homme dans sa vie de plus stupide? On en fait des stupidités dans sa vie, ça en fait pas mal. Mais la plus grande stupidité qu'un homme peut faire, renoncer à la grâce de Dieu. Quand on s'imagine que Dieu s'approche de nous, lui tout puissant, et nous dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Je veux t'accorder en retour le pardon de tous tes péchés et la vie éternelle. Une proposition de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et l'homme en général, comme chez vous, comme chez nous, dans le nord, comme en Suisse et dans le sud, en général, l'homme rejette cette grâce de Dieu et continue son chemin sur le chemin large qui conduit à la perdition. La parole de Dieu s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Et ce Dieu est notre Dieu. Je me rappelle toujours, on est arrivé avec Freddy, que vous connaissez un petit peu maintenant, une fois en Italie, dans une ville à Caserta, fatigué, on avait roulé pendant 12 heures. Puis j'ai dit à Freddy, tu sais Freddy, aujourd'hui on va dans un restaurant, on va toujours manger des bananes puis des cacahuètes, il faut manger une fois comme il faut. Et nous partîmes dans un restaurant, puis j'ai dit à Freddy, Freddy, on prend nos guitares dans le restaurant. Il m'a dit, tu sais, avec ces Italiens qui sont des spécialistes chanteurs, on est des petits sirons, nous, qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser nos guitares dans la bagnole. On prend des traités, bravo. On a parlé des traités, on a été dans ce restaurant plein de monde, et sur toutes les tables on a mis des traités. Traités partout. On a dit, t'as vu Seigneur, hein, sur toutes les tables, Seigneur. Puis on s'est dit, maman, j'ai nos spaghettis. Et pendant qu'on mangeait nos spaghettis, il est entré un Italien avec une guitare. Puis il s'est installé au centre du restaurant. Puis il s'est bien chanté, bien joué de la guitare. Puis il ne savait pas jouer de la guitare, il n'a jamais appris à jouer de la guitare. Il chantait tout, il jouait tout faux. Il n'a jamais changé de doigt, il est toujours la même chose. Pendant une demi-heure, ça a marché. Tout faux. On s'est regardé, t'as vu Freddy? Hein? Défaite, d'Apozzo. Défaite, Freddy. La frousse, hein, t'es pas assez bien joué. Voilà, le diable va se nicher. On a dit, si on avait pris nos guitares, on aurait autrement bien pu jouer, pu chanter que celui-là. Puis on a dit, Seigneur, ouvre-nous les yeux, qu'on voie mieux notre chemin. Qu'on voie notre chemin. Et nous sommes partis le lendemain sur les montagnes de Calabre, avec cette belle bagnole à Freddy. Une belle bagnole. Et là, on a aperçu qu'il venait à notre rencontre, en face, quatre jeunes filles de Calabre, accompagnées d'ânes chargées de bois, qui marchaient sur le chemin et qui avaient l'air très tristes et découragées, ces jeunes filles. Des jeunes filles de 19-20 ans, tous les quatre. Très tristes. Alors on a arrêté notre bagnole, qu'on a dit, enfin, où allez-vous avec ce bois, jeunes filles? Ah ben, on va à la ville voisine. On fait ça tous les matins, 9 km à pied, porter ce bois. Puis on vient l'après-midi avec des marchandises pour les villages, 9 km à pied, ça fait 18 km à pied, pour gagner, je vais vous le dire, 2 francs 10 nouveaux français par jour. Vous avez compris? Inclus le travail du bois, bien si à 50 cm, et la nourriture de l'âne. Ça fait environ 1 franc 10 de paye par jour et 18 km à pied. C'est pourquoi ces jeunes filles étaient tellement tristes. Alors on leur a joué quelques cantiques sur la route. En italien, on leur donne un petit message, puis après on a évangélisé. porte-monnaie.
Oh, 1000 livres.
7 francs. Oui. Mais ces jeunes filles ont commencé à verser des larmes de joie, de reconnaissance. C'était 4 jeunes catholiques. Oui, quelle joie. Puis elles nous ont dit, solo Dio, seul Dieu peut vous le rendre. Qu'est-ce qu'on dit en général ici en France, les jeunes filles? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et les protestantes aussi disent ça. Ou en Suisse. Moi, j'ai jamais entendu une protestante en Suisse qui dit « Seul Dieu peut vous le rendre » comme ça, des choses comme ça, à part les enfants de Dieu. Mais eux, ces catholiques-là, ils ont rendu gloire à Dieu, ces jeunes filles. Puis elles nous ont dit « On n'a jamais entendu des choses pareilles. » Jamais des choses pareilles. Est-ce que vous pourriez venir une fois nous voir dans notre village, nous parler de ces choses-là? Oh, il n'y a que 22 maisons, mais si vous ne voulez pas, trouver que c'est trop petit, venir quand même chez nous une fois. On deviendra le soir à 10h. On était le soir à 10h. Il y avait dans une écurie plein de monde. Des villages voisins étaient venus. Également, les jeunes filles étaient là. Et on a parlé de la croix de Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Depuis 10h du soir jusqu'à environ 2h du matin. Pourquoi si longtemps quand on disait Amen, il disait Avanti. Avanti, qui disait, je veux dire en avant. Pireur Avanti. 4 heures de temps, chers amis. Et puis après, ils en avaient encore passé, c'est encore Avanti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce petit village, il y a maintenant une belle assemblée évangélique qui est née d'une rencontre. Il s'agissait seulement de s'arrêter avec une belle bagnole pour 4 pauvres jeunes filles de Calabre. Les acceptions de personne, c'est du péché. Là où il y a l'acceptation de personne, il y a la malédiction et la mort. Dieu voit tous les hommes à la même hauteur. Si vous allez une fois sur la tour Eiffel, vous le verrez. Une fois, j'étais parti sur la tour Eiffel avec toute une équipe de Suisses qui était venue me voir à Paris, 16 enfants de Dieu. On est montés tous là-haut, on a chanté des cantiques. Et mon papa et ma maman, ils nous avaient accompagnés, mais ils ne sont pas montés sur la tour Eiffel, ils sont restés en bas. Il a déjà été 2-3 fois. Et mon papa, c'était un homme très grand. Maman, tout petite, ça faisait comme ça le papa et la maman chez nous. Puis ils étaient là au fond de la tour Eiffel, puis on les voyait. Mais on ne pouvait pas dire, le papa, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite? On n'avait plus de différence. Puis Dieu regarde les gens d'en haut, les gens du monde, les hommes regardent d'en bas, puis voient les différences. Dieu, il regarde d'en haut, il voit tous les hommes à la même hauteur, pas d'acception de personne. Le salut pour tous, sa joie, sa paix pour tous. Quelle grâce! Vous ne pouvez pas vous imaginer que nous sommes des gens spéciaux, on est des gens comme vous. On ne vit pas dans le péché chez nous, mais on peut avoir des manquements dans sa vie spirituelle. Eh bien, je me souviens toujours d'une fois, dans une église d'Allemagne, toute une semaine j'évangélisais, l'église pleine de monde. Et là, de la chair de cette église, j'apercevais au troisième rang, eh bien, une dame très triste. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que je cause à cette dame. Puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Il y en a un qui dit toujours, oh, t'as le temps. Il dit toujours comme ça, demain. Il s'appelle le diable, celui-là. Demain, il ne faut pas précipiter les choses, il faut attendre. Arriva le samedi, la dernière réunion du soir, le samedi soir, je n'ai encore pas causé à cette dame. Et alors, pour calmer ma conscience, un petit peu, je lui ai offert un beau petit bouquin à cette dame. Un petit bouquin. Mais ma conscience n'était pas déchargée. Le soir vers minuit, dans ce espace dans ma chambre, je pensais à cette dame. Et j'ai eu honte. Et je me suis humilié devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir demain, avant de partir, rencontrer encore cette dame. Je te demande cette chose, Seigneur. Il était vers minuit. Quand tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que j'aille à la fenêtre. Quoi faire à la fenêtre? À minuit, l'Esprit de Dieu. On ne peut pas expliquer ces choses-là, c'est de l'Esprit de Dieu. Et j'ai parti à la fenêtre, et de la fenêtre, je ne voyais que le cimetière autour du pasteur, là, de sa maison. Le cimetière des tombes. Beau clair de lune. Un clair de lune, des tombes. Et tout à coup, j'ai vu dans le cimetière une lumière qui se déplaçait à droite puis à gauche. Une lumière, à minuit, dans un cimetière. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que j'aille dans ce cimetière. Je suis descendu dans le cimetière, je lui ai caché derrière une pierre tombale. Puis j'ai regardé cette lumière qui s'approchait toujours, qui se déplaçait. Et tout à coup, cette lumière s'est approchée de moi, environ 2 mètres de ma personne, et s'est arrêtée. Il y avait une petite lampe, et puis il y avait cette dame très triste de l'église qui tenait cette lampe, devant la tombe de son mari, je ne savais encore pas. Et là, cette dame, qui n'était pas convertie, elle a commencé à parler à cette tombe. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait dans la journée, à peu près comme ceci. Tu vois, Joseph, je me suis levé ce matin à 6 heures, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Joseph, c'était son mari, Joseph, dans la tombe. Et puis, elle a parlé très longtemps. Puis, ce soir, j'étais à l'église, puis j'ai entendu cet apôtre qui a dit ci, qui a dit ci, qui a dit ça. Oui. Il a raconté pendant très longtemps cette tombe. Quand elle a terminé, j'ai dit en allemand, « Madame, que cherchez-vous à cette heure-là dans le cimetière ? Vous pensez bien alors dans une voie, dans un cimetière ?» Cette dame a tressaillé, elle a crié de peur, puis elle a dit, elle a crié, « Ich bin verdammt, je suis maudite, pour moi il n'y a plus de grâce. » Elle m'avait reconnu. J'ai dit, « Mais madame, expliquez-moi pourquoi vous êtes là, pourquoi ce long discours à cette tombe ?» Elle m'a dit, « Mon mari est mort il y a 2 ans, il était possédé des démons, et un terrible alcoolique, et avant de mourir, j'ai dû jurer à mon mari sous serment que je viendrai tous les soirs ici à minuit devant sa tombe raconter ce que j'ai fait dans la journée. Il y a 2 ans que je le fais par tous les temps, la pluie, la neige, le vent, le froid, la tempête, j'étais là tous les soirs. Et puis mon mari m'a dit, et j'ai bu de l'alcool et tu boiras de l'alcool. Je l'ai demandé au diable. Puis il m'a dit, et je suis devenu une terrible alcoolique, je suis lié. C'est pourquoi je dis, je suis maudite. Et je dis, chère sœur, j'ai pu dire chère madame là. J'ai pensé, c'est une pauvre âme, il faut l'encourager. Chère sœur, j'ai dit, est-ce que vous connaissez ce beau cantique ? Son sang me purifie, on a c'est un beau cantique en allemand. Son sang me purifie de tous mes péchés. Vous le connaissez ce cantique ? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous pouvez prier ? Ah non, non, je ne peux pas prier. Moi, non, 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 je ne peux pas prier. Mais, par exemple, chanter ce cantique, vous pouvez le faire ? Si on le chantait tous les deux. Je vais essayer. Et je vois cette dame tomber à genoux sur la tombe de son mari et en sanglotant, chantant avec moi ce cantique. Elle était secouée par les sanglots. Puis après, je lui ai posé les mains. Puis je lui ai dit, chère sœur, au nom du Seigneur Jésus et par son précieux sang, je vous impose les mains en son nom. Et je vous délivre votre serment envers votre mari. Et cette femme était libre, complètement. L'Esprit de Dieu est descendu dans son cœur. Et elle a commencé à faire quoi ? Elle a commencé à confesser ses péchés. On dit, mais c'est catholique ça. Mais non, c'est évangélique la confession des péchés. J'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça dans ma vie. Est-ce qu'il y a encore de la grâce pour ça là aussi ? Tous ces péchés. Oui. Imaginez-vous, par exemple, que moi je rentre, quand je rentre d'ici, je rentre tard le soir, il y a mon voisin qui a des belles salades dans son jardin. Oui. Alors il les a couvertes avec du feuillage, mais moi je connais bien la combine, alors c'est minuit, par exemple, 1h du matin, quand je rentre à la maison, alors je lui fauche 2-3 salades, je les vole pas, je les fauche, les barbote. Il y en a tellement, il y en a trop. Puis après je rentre à la maison, je dis, Seigneur, ça me fait de la peine pour ces salades, pardonne-moi, alléluia. C'est-il pardonné ? C'est pas pardonné. Mais non, faut pas vivre d'illusions. Il faut que je confesse ces salades au voisin, et mieux que je lui paye. Dieu n'est pas à jouer. C'est pourquoi que tant de gens n'ont pas de vie de victoire, parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. C'est sérieux, les choses de Dieu. C'est beau, c'est heureux, c'est joyeux, et c'est sérieux. Et cette dame a trouvé la paix avec son sauveur, là, sur cette tombe de son mari. Eh bien, je l'ai visitée dernièrement, elle est une femme heureuse, il y a déjà 2-3 ans de ça. Une femme heureuse qui a trouvé son sauveur. Elle a réalisé la nouvelle naissance dans un cimetière vers 1h du matin, sur la tombe de son mari. Il s'agissait, eh bien, je me suis réjoui, mais je me suis dit, d'Apozzo, toi traître que tu es, une semaine entière tu l'as vu là, tu aurais dû lui parler, tu lui aurais épargné une semaine de peine et de misère à cette femme. Mais tu n'as pas osé lui parler. Tu as été un traître. Et je me suis humilié. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de faire des choses sérieuses avec Dieu. Lui le même, hier, aujourd'hui toujours le même, qui donne sa puissance et sa grâce et son Saint-Esprit à ceux qui se tiennent de son côté. Si tu te tiens de mon côté, je me tiendrai de ton côté, dit l'Éternel. Mais entièrement, pas 90%, 100% pour le Seigneur. Et Dieu bénit. Et même quand il nous semble que vraiment on est trop faible, qu'on ne vaut rien du tout, voyez-vous, une fois j'étais voir deux Italiens d'un hôpital à Zurich qui étaient malades. Et puis ces Italiens, ils ont reçu la visite du curé avant moi. Puis ce curé leur a dit, il ne faut jamais écouter les protestants. Alors quand je suis arrivé, moi, ils m'ont tourné le dos dans leur lit. Ils n'ont rien voulu écouter. Puis je rentrais avec le tram contre la gare de Zurich, tout à fait découragé. Et je me disais, d'Aposo, t'es pas un bon évangéliste, un bon à rien. T'as même pas pu leur parler d'eux, moi, ces gens. T'es complètement faible, sans force. Et je me suis dit, ben, j'abandonne l'évangélisation, puis je m'en vais faire du boulot dans les chantiers. Ça ne va pas, quoi. Plus de force. Oui, ma force s'accomplit dans la faiblesse. T'es plus bon à rien. C'est bon qu'on n'est plus bon à rien. On est arrivé au bout du rouleau, soi-même, avec ses propres efforts. Et je suis entré dans un tram, là. Il y avait beaucoup de monde dans ces rues de Zurich. Et il y a tellement de monde que j'ai dû... Les gens poussaient que j'ai dû me tenir à une barre dans ce tram. Et j'ai prié. Je tenais cette barre. Mais au lieu de tenir la barre, je tenais la main d'une dame. Puis j'étais à l'hôpital. Puis je me disais, t'aurais dû dire ça, ces Italiens. Puis t'aurais au moins, comment elle pu dire ça, ces Italiens. Puis je tenais toujours cette dame par le poignet. Je croyais que j'étais une barre, moi. Tout à coup, je pense, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement mou ce fer ici. C'était une dame. Puis je dis, écoutez, madame, excusez-moi, moi je viens vieux, vous comprenez, comprendre, hein. C'est pas de mauvaise intention. Puis elle m'a dit, mais vous êtes un enfant de Dieu. Je dis, oui, moi aussi. Puis elle m'a dit, voyez-vous, il y a 3 ans que je souffre terriblement. Je suis veuve, j'ai 3 enfants, il faut que j'aille travailler. Et je suis entré dans ce tram avec de grandes souffrances. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la délivrance et la guérison, ou bien prends-moi dans ton ciel. Je ne peux plus tenir le coup. Puis au même instant, elle m'a dit que j'ai prié ça, vous avez saisi mon bras et toutes mes douleurs sont parties, elle était guérie. Elle est encore guérie aujourd'hui, elle était guérie. Eh bien, je ne savais rien de tout ça. Dieu guérit d'une façon ou bien d'une autre. C'est lui qui guérit, comme il veut, lui. Mais moi, j'étais plus bon à rien. Je ne pouvais pas dire, je vais prier que vous serez guéri. Ah non, du tout, alors. J'étais plus bon à rien. Et Dieu peut encore se servir de nos épaves. Quelle grâce. J'étais une fois invité en Calabre dans une petite maison où là habitait une veuve et 3 enfants. Une veuve italienne. Et 3 enfants sur les bras. Et puis elle m'invitait à souper. Je suis allé. Et quand je montais vers cette colline où il y avait sa baraque, elle n'habitait pas un beau palais, une baraque, j'ai entendu qu'elle disait à ses enfants, « Dépêche-toi de balayer, voilà qu'il arrive. » Puis alors, je suis arrivé dans cette baraque, puis on s'est mis à table, puis le souper a été servi. Ce souper, c'était du pain et de l'eau. Point final. J'ai regardé s'il n'y avait pas des petits spaghettis par là, ou des ravolis non plus. Du pain et de l'eau. Mais là, j'ai vu quelque chose que je voyais pour la première fois. J'ai vu cette simple femme de Calabre se mettre à genoux avec ses 3 enfants. Et le Saint-Esprit m'a révélé, c'est pas de la comédie d'Aposto, c'est du vrai, ça, ils le font toujours, pas seulement aujourd'hui, parce que tu es là. À genoux. Et les 4, pleins de joie, ont rendu grâce pour ce pain et cette eau. Puis c'était de la terre par terre, de la terre battue dans cette baraque. Puis après, ils se sont mis à table, et moi avec. Puis, ils se sont levés d'abord, puis ils ont récité à haute voix le psaume 23 en italien, tout entier. Il Signore è il mio pastore, e nulla mi manquera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, avec du pain puis de l'eau sur la table. Puis après, nous mangeâmes et nous bûmes. Et je dis à cette sœur, chère sœur, vous avez toujours eu moins du pain à manger le soir? Toujours du pain, elle m'a dit, ah, non, fratello, frère, des fois que de l'eau, pas possible. Elle m'a dit comme ça, il y a 2 ans, je me suis converti à Jésus-Christ. J'étais la première convertie de ce village. Et quand je me suis converti, le prêtre m'a enlevé mon petit gagne-pain. Et j'avais encore un petit jardin qui appartenait au prêtre. Et le prêtre m'enlevait le jardin. De sorte que quelquefois nous avions le soir à table à manger que de l'eau. Vous avez entendu ça, manger de l'eau, vous? À manger que de l'eau. Mais je dis alors, chère sœur, quand vous avez mangé que de l'eau, comme vous dites, vous êtes aussi mis à genoux. Vous avez aussi répété le psaume 23 avec que de l'eau sur la table. Oh, si, fratello, oui, frère. Puis elle a dit, rayonnante, et Dieu a fait plus que pour Israël, pour nous, encore. Il a béni notre cruche et nous avons été nourris avec de l'eau. Chers amis, quand on évangélise en Calabre et dans le Sud, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de miracles grandioses. Des gens qui sont nourris avec de l'eau. Et cette femme a été bénie. Et moi, je me suis devenu tout petit devant cette femme. Tout petit, un petit apôtre, je vous assure, qu'on peut rendre grâce, louer le Seigneur avec de l'eau sur la table. Et réciter le psaume 23. On voit tellement de gens qui réclament toujours, qui ne sont jamais contents. Chez les chrétiens qui se disent encore convertis, et puis que toujours, ils ne sont jamais contents, ils résistent toujours. Et cette sœur, Dieu l'a bénie. On s'est occupé d'elle plus tard. Et puis, elle a pu se marier qu'un cher frère. Ils sont tellement heureux. Dieu fait bien les choses. Tout dit qu'il est merveilleux. Ça continue, les actes des apôtres, parce qu'il n'y a pas seulement 28 chapitres, il y en a plus que ça. Il y en a des millions de chapitres qui seront révélés dans la gloire de Dieu un jour. Ce que Dieu a fait pour vous aussi, dans sa grande patience, c'est une grâce de Dieu qu'on a encore en vie. On a échappé combien de fois à la mort, qui le sait? Dieu est bon. C'est pourquoi il est bon de se confier en lui, de venir à lui tel qu'on est. Oui. La joie du Seigneur. J'ai connu une grand-maman là-bas en Calabre, la mère Matinucci. Il y a un petit pays qui s'appelle là-bas en Calabre, Gasperina. Gasperina. Et dans ce pays de Calabre-là, une grande partie du village s'est convertie. Moi, je connais un village en Italie que le curé est parti du village, il n'y a plus personne à l'église. Ils sont tous convertis dans ce village-là. Les Braide, ça s'appelle. Les Braide, en dessous de Brienza. Ah oui, c'était une merveille. Il n'y a plus personne à l'église catholique. Ils ont construit une salle, puis ils sont tous convertis dans ce village. Et là, dans ce Gasperina, eh bien, il y avait un réveil spirituel, un réveil religieux. Ils ont trouvé la paix avec Jésus-Christ par l'évangile. C'était la joie. Ils ont construit une chapelle eux-mêmes. Et puis alors, il y a cette maman Martinucci, la grand-maman qui a plus de 80 ans. Et puis, ils sont tous convertis dans la famille. Le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa, et puis les 9 enfants. Tous des enfants de Dieu. Et c'était la joie dans cette maison, la joie du ciel. Déjà maintenant. Puis un jour arriva dans ce pays-là, à Gasperina, un moine qui s'appelle Guido Calzi. Moi, je le connais. Guido Calzi. Et ce moine, il récoltait de l'argent, collectait de l'argent pour faire une madone, pas en acier, en argent, s'il vous plaît, pour adorer cette madone dans son église. Et puis il arrivera justement de nouveau chez Martinucci aussi. Puis la maman, la grand-maman, elle a dit, « Monsieur le moine, nous sommes des chrétiens évangéliques, des enfants de Dieu, on ne donne pas un sou pour les madonnas en argent chez nous. Pas un sou. C'est-il de l'amour qu'on donne rien du tout. L'amour, c'est de dire la vérité, même quand ça fait mal. Ça, c'est la vérité, ça, c'est l'amour. Mais elle a dit, « Monsieur le moine, vous êtes notre hôte. Vous pouvez rester chez nous tant que vous voulez, aussi longtemps. » Manger, boire, coucher, vous êtes chez vous. Puis l'accepter. Il est resté chez ces gens-là, le moine. C'était les seuls qu'il avait comme ça invité. Oui. Et alors, à table, le soir, la grand-maman lisait la Bible ou bien le grand-papa. Tout le monde chantait des cantiques. Et le moine écoutait. Guido Calzi écoutait tout ce qui se passait, ça l'intéressait. 8 jours après, il est descendu de sa chambre le matin de bonne heure, vers 6 heures. Puis il a dit, « Maman Martinucci, est-ce que c'est pas trop si je reste encore 8 jours chez vous ?»« mais non, même une année, restez, ça lui plaisait chez ces protestants. » C'est des protestants du chemin étroit, pas du chemin large, des vrais, des enfants de Dieu. Puis il resta 8 jours. Au bout de 8 jours, il redescendit son escalier de bonheur le matin, puis il dit, « Écoutez, mais j'ai presque une mauvaise conscience, mais vous me permettez de rester encore 15 jours ?»« Mais oui, je vous l'ai dit, une année, restez. » Puis il resta. Puis un mois plus tard environ, il descendit de son escalier, le matin de bonne heure, le moine, oui, avec des larmes. Est-ce qu'il avait mal au ventre ou bien mal aux dents? Non, c'était des larmes de joie. Et ce moine Vidocalzi a embrassé cette vieille maman, Martinucci. Il lui a dit, maman Martinucci, la nuit passée, je me suis converti au Seigneur par la parole que j'ai entendue ici. J'étais moine et j'étais un homme perdu. Maintenant, je suis sauvé. Puis il a dit, maintenant, chère maman Martinucci, je ne peux plus porter cette robe, ce cordon, ce commerce et tout ça. Est-ce que vous pouvez me trouver une petite veste, un petit pantalon? Puis ils l'ont trouvé tout de suite, puis encore un mot. Et puis, maintenant, Guido Calzi annonce l'évangile en Italie, comme enfant de Dieu, comme pasteur évangélique et même en Amérique, sauvé par une vieille maman, par son message et son témoignage. Il y en a qui vous disent comme ça, moi, je suis trop vieux maintenant pour évangéliser. Je suis trop vieux pour donner mon témoignage. Il n'y a pas d'âge. Nous sommes appelés, tels que nous sommes, à porter notre témoignage. Et Dieu bénit les siens. C'est pourquoi il est bon de venir à lui. Il manque de témoins de nos jours. Et vous savez que les gens du bâtiment, comme chez nous, eh bien, ils ont, comme aussi à Cossonay, ils ont des machines, du matériel, et toutes sortes de choses pour travailler. Ainsi chez nous aussi, à Paris, on a ce qu'il faut pour travailler. Il faut bien des choses. Et chez nous aussi, dans notre entreprise, eh bien, nous avons aussi, à cette époque-là, et encore maintenant, beaucoup de planches d'échafaudage. Et ces planches d'échafaudage, à cette époque-là, j'avais 16 ans, elles avaient pris dans mon cœur passablement de place. Mes chères planches, quelquefois, c'est une pièce de bétail dans le cœur, ou bien un champ, ou bien aussi des bijoux, ou quelquefois soi-même. On est tellement virtique, disent les Allemands, tellement important. On ne pense qu'à soi. Chez moi, c'était mes planches d'échafaudage qui aient pris de la place dans mon cœur passablement. Et un jour, je rentrais du nord de la France d'évangéliser dans la région parisienne de ma tête bonheur, le lundi, et j'ai aperçu devant ma maison, il faisait encore un peu nuit, eh bien, j'ai aperçu mes chères planches étaient là. Elles étaient là, mes planches. Mais près de mes planches, il y avait trois voleurs de planches qui me volaient mes planches à moi. Mes chères planches, épouvantables. Et j'étais tellement, tellement surpris de voir ça que je me suis sauvé dans mon jardin pour constater et réfléchir ce que j'allais faire. Les voleurs de planches sont là. Et dans ce jardin, de nouveau, revisite le diable. Que dit-il maintenant? C'est épouvantable, tes planches. Tu les as payées, c'est à toi. Il faut te défendre, ta poso. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, après tout. Il y a des limites, dit le diable. Un chrétien, c'est un homme qui peut se laisser marcher sur les pieds. Quand je me suis converti, eh bien, j'ai fait comme l'enfant prodigue, par la grâce de Dieu. L'enfant prodigue, quand il rentre à la maison, il était pieds nus. Oui, vous avez lu dans la parole de Dieu, il était pieds nus. Je pense qu'il sentait quand on lui marchait sur les pieds. C'est pourquoi, quand il est rentré à la maison, on lui a mis une paire de sandales pour qu'il sente moins les coups. Et moi, quand je me suis converti, j'ai reçu une paire de sandales de la part du Seigneur. La sandale gauche, je la rappelle, rendez grâce pour toutes choses. Et la sandale droite, je l'appelle toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec ça, on est bien chaud, ça, on sent moins les coups. Et le diable dit, tu ne vas pas te laisser marcher sur les pieds, il faut te défendre. Et le diable m'a dit dans le jardin, va vite téléphoner à la cabine chez le garde champêtre. Il faut qu'il vienne, ce garde champêtre, et cette police. Et j'étais justement prêt à partir vers cette cabine, quand tout à coup j'ai pensé, après tout, que dit la Bible? Que ferait Jésus à ma place maintenant? Il est bon de penser toujours, que ferait Jésus à ma place dans cette circonstance? Et j'ai pensé, eh bien maintenant, je vais me prêcher moi-même. Vous avez déjà essayé, chers amis, de vous prêcher vous-même? C'est pratique, on n'est pas toujours à l'église. Il y a aussi la semaine, et alors on est obligé de se prêcher soi-même. C'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible pour se prêcher soi-même. Et j'ai pensé, bien sûrement que dans la Bible, il y a une solution pour les planches. Elle doit exister dans la Bible. Et j'ai pensé à moi-même, il est écrit, « Aimez vos ennemis ». Il n'est pas dit, « Aimez vos ennemis, excepté les voleurs de planches. »« Aimez vos ennemis, point final. » Et après, j'ai pensé à moi-même, « Daposo, tu as dit que tu es un chrétien, il faut le prouver. Il faut le prouver qu'on est des chrétiens. » Eh bien, qu'as-tu le plus à cœur dans ton cœur, de plus précieux? Tes planches ou ces trois pauvres âmes, ces hommes qui ont des âmes éternelles? Qu'as-tu le plus à cœur? Les planches, c'est du bois. Ça brûle dans les fourneaux, même que ça pourrit. Mais ces hommes-là, qui ne connaissent pas Jésus, ils ont des âmes éternelles. Et toi, d'Apozo, tu pourrais très bien être un voleur de planches, après tout. Si je ne t'avais pas sauvé, dit Jésus. Oui. Et alors là, dans ce jardin, j'ai pu faire la prière. Oh, c'est merveilleux, même dans le jardin. Et j'ai prié pas très long. J'ai seulement dit au Seigneur dans ma prière, « Oh Seigneur Jésus, je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. » Et c'était réalisé. Quoi donc? Bien, ces trois voleurs m'étaient devenus très chers tout à coup. Très chers! Pauvres gens. Plein d'amour pour eux. Et je suis parti vers eux. Et j'ai pensé, après tout, oui, si on ne peut pas supporter qu'on nous vole quelques planches, qu'arrivera-t-il quand il voudra laisser pour Jésus-Christ? Pas seulement des planches. Peut-être notre vie un jour, pas seulement des planches. Pauvres gens, plein d'amour pour eux par la grâce de Dieu. Et je dis bonjour, camarades. Alors, vous fauchez les planches?
Oui, oui.
Vous savez, chers amis, chez nous, sur la façade de notre maison près de Paris, il y a un verset de la Bible. Notre maison, dans la région parisienne, est la seule maison avec un verset de la Bible par-dessus. Nous sommes très, très, très fiers. Notre verset de la Bible. Il y a déjà des gens qui sont convertis par ce moyen-là. Ils sont venus demander ce que ça voulait dire, ce bon Dieu sur la maison. Et ils ont pensé certainement, ces gens, ils ont pensé certainement, il vaut mieux faucher des planches chez les gens du bon Dieu que chez les autres, c'est moins dangereux. Et je dis, camarade, alors est-ce que je peux vous donner un coup de main à charger ces planches? Vous êtes tellement occupé. Pourquoi pas? Et j'ai donné un coup de main à charger ces planches. C'était merveilleux. Chaque planche me faisait du bien. Je ne les comptais plus. Avant, je les comptais dans le jardin. Mais là, merveilleux. Que c'est merveilleux pour quelques planches. Quelle joie. Oh, il était battu. Qui donc, le diable? Il était battu. Sur toute la ligne. Et pour cela, il faut faire quelque chose. C'est bien par grâce qu'on obtient la victoire. Mais il faut faire quelque chose. Aimez vos ennemis. Et c'est possible. Christ en nous. Et tout à coup, ils m'ont dit, ses camarades, « Oh là là, ça va être trop lourd, elle va craquer la voiture, il y a une voiture à bras. » Alors je dis, « Non, camarade, la voiture, elle est costaud. On peut en mettre dessus encore 7. » Un bon conseil, j'ai donné, encore 7, les plus belles. Et nous avons encore mis encore 7. C'est très béni, le nombre 7 dans la parole de Dieu. 7. Et 7, on les a mis. Et voilà que tout le monde transpire, et puis moi avec. Ils se dépêchent, les voleurs. Transpire. Et je dis, « Camarades, vous avez-tu soif? Car savez-vous, camarades, dans cette maison en face, dans la cave, il y a du bon cidre chez ces gens-là. Vous connaissez bien le chemin de la cave. Voulez-vous vous boire un coup de cidre à vitesse? Pourquoi pas? Mais dépêche-toi. » Et je suis parti vers notre cave. Je la connaissais bien, notre cave. Et j'ai pris une bouteille de cidre. Chez nous, nous avions deux sortes de cidre. Le cidre du dimanche puis le cidre de la semaine. Alors quand on a des visites, toujours le meilleur. J'ai pris une bouteille de dimanche, même si c'était lundi. Et je suis parti dans la maison, puis j'ai pris là trois verres, la bière d'Apozo. Pas de vieilles tasses ébréchées, quand on a des visites, sur le plus beau. Trois verres de cristal. Et à chacun, j'ai versé un verre de cidre sur la route, à ces trois pauvres esclaves. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et le cidre dans les verres. Puis après, ils m'ont dit, tenez un coquin, tu sais bien où il cache le cidre? Je dis, oui, camarade. Car savez-vous, camarade, c'est mon cidre, ça. Oh, oui. Et ces planches-là, ce sont les miennes. Oh. Et je dis, camarades, n'ayez pas peur que de moi. J'ai un même voleur que vous. Ah, mais oui. Qui n'a pas été un voleur dans sa vie? Que faut-il et combien faut-il voler pour être un voleur devant Dieu? Et je dis, camarades, j'étais un même voleur que vous. Mais un jour dans ma vie, camarades, j'ai rencontré Christ, mon sauveur. Et là, sur la route, j'ai raconté mon témoignage. Comment Dieu m'a sauvé par son Fils unique, la puissance du péché et de la mort. Et ils n'ont pas compris grand-chose, ces Parisiens. C'est la première fois qu'ils entendaient ce message de Jésus-Christ. Et pour terminer, je dis, camarades, maintenant, à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ, je vous donne ces planches. Ça, ils l'ont compris. Et nous avons dans la maison ici, tous les dimanches, après-midi à 3h, un culte évangélique. Venez un jour chez nous, écoutez la parole de Dieu, ça nous fera plaisir. Vous êtes chez nous toujours les bienvenus. C'est assez rare qu'on dit aux voleurs, vous reviendrez. Hein? Et ils sont partis contre Paris avec cette charrotée de planches, tête basse tous les deux, tous les trois.
tout dépité, tout déprimé, contreparé avec les planches. J'ai pas dit débarrassé ou bien déchargé. Ah non, c'était trop beau. Et on pourrait se dire, aïe, 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 aïe. Faut-il agir comme ça, comme chrétien? Il faut rien. Dieu nous laisse complètement libres. Totalement libres. Mais il est dit dans la parole de Dieu très clairement ceci. Ils se sont laissés ravir leurs biens avec joie. Vous êtes d'accord? Et davantage, il est dit, si quelqu'un te prend ta veste, donne-lui encore ton manteau. Ça, c'est l'évangile. Et puis, il a dit autre chose. Il a dit, si quelqu'un te prend ton bien, ne le réclame point. Alors, on peut dire, oh là 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 là, à ce moment-là, si on nous prend tout, on fera faillite. Oh non, avec Dieu, on ne fait jamais faillite. Jamais. À lui, à Dieu, appartiennent toutes les planches du monde, toutes les maisons, les propriétés, l'or et l'argent, ta vie et la mienne. Et quand Dieu dit, halte, c'est la mort qui est là. À lui appartiennent toutes choses, qu'on le veuille ou pas. Et 16 ans ont passé, 16 années. C'est long et c'est court de nouveau. 16 ans plus tard, un de ces voleurs est venu écouter la parole de Dieu chez nous. Il est venu, un de ces voleurs. On ne le reconnaissait plus, évidemment, 16 ans. Ça change un visage. Il a très bien écouté cet homme inconnu. La prédication n'a pas fait. Parce que des gens, quelquefois, à la prédication, ils sont justement à la caisse d'épargne. Ou bien ailleurs. Alors la prédication, elle fait. Alors chez lui, la prédication, elle fait. Tuc, tuc. Tuc, tuc. Pas tuc, tuc. Tuc, tuc. Et cet homme s'est converti à Christ, est devenu une nouvelle créature, est devenu un évangéliste en France. Il travaille en qualité d'évangéliste en France, cet homme. Une âme sauvée a combien de valeur? Combien de milliards de planches? Une âme sauvée a plus de valeur que le monde entier. Et Dieu n'oublie rien, chers amis. Non, jamais. Même pas les planches. Quelques années plus tard, ça fait 18 ans plus tard, j'étais rentré des camps de concentration. Il a fallu que je construise un petit logement pour ma famille, pour me mettre à l'abri. Et j'avais besoin de planches. Et je n'avais pas d'argent. J'étais réfugié. Et j'ai reçu d'un chrétien que je ne connaissais même pas, qui a entendu parler de mon cas, j'ai reçu 14 mètres cubes de planches. Ça fait 2000 francs suisses de valeur. 18 ans plus tard, 14 mètres cubes de planches. Les planches arrivent de Paris à Belp, dans le canton de Berne, 18 ans plus tard. Ils arrivent au temps convenable. Dieu n'oublie rien. Dieu rend aux gens, on appelle ça de la chance, hein? Mais non, chez nous, ce n'est pas la chance. Chez nous, il a dit, mieux que ça, mieux que la chance. Chez nous, il a dit, si tu te tiens de mon côté, je me tiendrai de ton côté, dit l'Éternel. Merveilleux. Et ça vaut la peine de donner sa vie à Christ pour réaliser Christ de cette façon-là. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai évangélisé une fois en France, pour terminer, en France, et on a passé qu'un ami en voiture dans une province de France, et en passant dans le village, j'ai dit à cet ami, évangéliste, arrête-toi dans ce village ici, il y a un frère en Christ qui est malade. On va aller le visiter. Puis il m'a dit, non, on n'a pas le temps. Oh, je dis, ah mais si, il faudra prendre du temps pour cette âme, toute seule dans ce village, mets-toi à sa place. Mais il n'a pas voulu. Il s'est mis un peu en colère contre moi, cet évangéliste, puis il m'a dit, tu veux toujours tout commander, parce que tu es le plus vieux. Puis il s'est mis à bouder. Et il a dû s'arrêter, il est le plus jeune dans ce village, on a dû faire cette visite de ce malade. Quelle joie chez ce malade, une joie. J'ai lu la Bible, on a prié ensemble. Mais lui, mon camarade évangéliste, n'a pas voulu prier, ni même chanter. Il fallait que je chante un solo, tout seul. Il ne chante pas très bien. Et on est reparti. Et lui boudait toujours, mon camarade évangéliste, malheureusement. On a fait quelques kilomètres, là, lui était tombé. Voilà qu'il arrive un autostoppeur sur la route. Vous savez, ces gaillards qui font comme ça sur la route. Et j'ai dit à mon camarade, il faut qu'on l'amène avec nous. Tu vois quel pauvre type. Il m'a dit, on n'a pas le temps, s'arrêter ici encore un type pareil. Il dit, on va le prendre avec nous. Et de mauvaise humeur, il a dû stopper sa voiture. Et puis, il m'a un petit peu marronné, grondé. On perd du temps à cause de toi, tu verras. Et on l'a pris. À peine dans la voiture, ce monsieur inconnu, autostoppeur, nous a dit, vous savez, je sors de prison. Oh. Moi, je me disais que c'était un ange, parce que des fois qu'on prend les anges en charge. Hein. Mais ce n'était pas un ange, c'était un homme qui sortait de prison. Puis il m'a dit, vous savez, je sors de prison. Et j'ai ma soeur à 20 kilomètres d'ici. On est parti. Tout à coup, la police. Et nos phares n'étaient pas en or, nos phares. Et là, on a reçu une contravention. Alors là, mon camarade évangéliste, il s'est un petit peu vengé. Il m'a dit, c'est toi la cause. On s'est arrêté ici, et là, on a perdu de temps, maintenant on a une contravention à cause de toi. C'est à cause de toi. Et je me disais, et c'est vrai, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a déjà pensé dans sa vie, si j'étais le bon Dieu, moi je ferais comme ça maintenant. Si j'étais à la place du bon Dieu, ben, je ferais comme ça. Ben, il y en a un, il s'appelle Dapozzo. Il a déjà souvent pensé, ben, si j'étais le bon Dieu, ben, je ferais comme ça maintenant. Oui, on sait presque mieux que le bon Dieu. Oui. Et j'ai pensé, c'est vrai après tout, le Seigneur, il n'a pas pu envoyer ses gendarmes ailleurs, c'est notre route. Il faut qu'on ait une contravention. Nous qui faisons comme ça l'œuvre de Dieu, faisons comme ça des belles choses, on s'arrête pour voir les malades, mais dans une contravention. T'es presque pas content du bon Dieu, moi non plus. Et puis j'ai dit à mon camarade évangéliste, eh ben tu sais, j'ai dit, je crois quand même que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis il m'a dit, même les contraventions ? Même les contraventions. Il m'a dit, t'es encore plus bête que je croyais. Puis il m'a fait comme ça. On repart, on arrive à destination où l'autostoppeur descendait chez sa sœur. Et il nous a dit au revoir, très gentiment, au revoir mes amis. Puis il nous a dit, n'ayez aucune crainte. Vous ne recevrez aucune contravention. Oh, comment ça se fait? Comment vous le savez? Je vais vous expliquer. C'était un pickpocket spécialiste. Il a sorti de sa poche un carnet, tel carnet de la police. Il a réussi à faucher le carnet du policier avec notre contravention par-dessus. Puis il a dit, voilà, vous êtes les derniers. Il a fait une bonne journée, mais presque 30 petites contraventions. Voilà le carnet, pas de contravention. Qu'avons-nous fait, nous? Eh bien, on a envoyé ce carnet à la police. Et nous avons reçu une gratification de la police, une belle lettre de compliment, premièrement. Il y avait la valeur de 40 francs suisses de gratification et pas de contravention, fini. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh oui, on peut venir à Dieu avec tous nos problèmes, et quand on marche, comme dit la parole de Dieu, ça va bien dans la vie. Et alors, ce soir encore, ce problème est posé. Qu'il faut choisir dans sa vie une fois et se décider pour Christ. Chère âme, nous voudrions te dire ce soir, si tu ne l'as encore pas dans ton cœur, viens à Jésus ce soir, fais-le. Mets-toi à genoux dans ta chambre et dis-lui ta misère et ta douleur. Apporte-lui ton péché.